Le peuple unifié d'Israël, femme en tête, écoute son prophète. Sur les pentes de la montagne d'illumination. Il entend le porte-parole du Je suis. Ce n'est pas un autre qui parle. Il est le porte-parole du Je suis du cœur de l'illumination. Il est le porte-parole du Je suis du cœur de chaque être qui écoute. Ce n'est pas un autre qui parle, c'est le Je suis du peuple de Dieu. C'est le Je suis du peuple d'Israël. C'est le Je suis de chacun, de chaque un qui parle. Le prophète parle au nom du Je suis de chaque un. Il vient dire à l'oreille ce que l'oreille n'entend pas. Il vient le dire au nom de cela que l'on n'entend pas, au cœur de l'être, notre Je suis. Il montre les chemins de la vie. Il ne parle pas d'une réalité lointaine. Il montre les voies du Seigneur, les voies du Je suis, les chemins de la vie. Et le prophète révèle ce qui est écrit au tréfonds du cœur de chaque être, les 10 paroles. Les 10 rythmes profonds, la loi naturelle, l'ordre du monde. Et il transmet ces paroles de « Je suis » à « Je suis ». De « Je suis » à « Je suis » dans la relation d'amour, dans la seule relation de transmission, du cœur au cœur, de la présence à la présence. Il n'explique pas. Le Seigneur commande. Le Seigneur ne demande pas. Celui qui est dans le besoin demande. Ce ne sont pas les 10 demandes, c'est les 10 commandements. Il ne vous demande rien, il n'a pas besoin. Il commande, il ordonne. Obéir au commandement, c'est accomplir le dessein du Seigneur dans l'histoire. Ce n'est pas récolter une récompense. Ce n'est pas échapper à la punition. C'est aller les voies de la loi naturelle, les voies du Je suis, les chemins de la vie. Ce qu'il commande, c'est marcher. En marche. Ce que disait après le Seigneur au mont des Béatitudes, bienheureux peut être entendu, mais ce n'est pas bienheureux qu'il a dit. Il a dit en marche. Hébreu, Héber, Hébrite, l'homme qui marche. L'homme debout qui marche. L'homme, la marche. En marche. En marche pour marcher la marche de l'homme, la marche des chemins de la vie. Allez. Et il transmet ses commandements comme autant de chemins de cette marche de la vie. Comme les chemins pour être en accord avec la loi naturelle, en accord avec le dessein de Dieu dans l'histoire. Car marcher les chemins de la vie, c'est la plus haute responsabilité de l'homme. Ce n'est pas seulement obéir à Dieu, c'est faire Dieu. Dieu s'est oublié. Tel est son ordalie. Il s'est oublié pour que nous marchions et nous marchons dans les chemins de la vie, Dieu se souvienne et chante sa propre gloire. Alors il laisse au cœur de l'homme ce commandement, cette mémoire avant l'oubli, celle qu'il faut retrouver, se souvenir. Dans son effacement, dans son oubli, il laisse au cœur de tout ce qui est le souvenir, le décalogue, les 10 paroles, les chemins du souvenir. Et voilà ce que rappelle chaque prophète. Il n'invente rien. Il rappelle ce dont lui se rappelle par la vision illuminante. Il rappelle ce qui est écrit de toute éternité. Et quand le prophète parle sur les pentes du Sinaï, chacun se souvient. La Bible dit « chacun est devenu prophète ». Chaque Israélite était prophète en même temps que Moïse et entendait la parole qui transmettait les commandements. Car dans cette reconnaissance, nous sommes un. Nous sommes le souvenir de cette mémoire à accomplir. Nous sommes le souvenir de cette marche vivante à réaliser tous les jours. Et voilà le 5e commandement. Extraordinaire 5e commandement. Je ne sais pas combien de temps il a mis à les dire. Je ne sais pas s'il a pris autant de plaisir. Et lui, et vous, à l'époque. Car il est dit aussi que tous les hommes étaient présents là au Sinaï. Ceux d'avant, ceux d'alors et ceux d'après. Tous prophètes et tous présents, du passé, du présent et du futur. Vous étiez au Sinaï. L'humanité tout entière écoute les commandements. Je ne sais pas s'il a pris autant de plaisir à chaque commandement que j'en prends. Quelle joie! Quelle joie de révéler, de ressortir de cette terre primordiale du cœur de l'homme, ces chemins de la vie. Sentir que c'est vivant, ces paroles vivantes, ces chemins de vie. Ce n'est pas théorie, concept, c'est pas information. C'est même plus enseignement, c'est révélation, simplicité. C'est vous. Quel plus beau cadeau que de vous rappeler vous. Quel plus beau cadeau que de vous donner ce que vous êtes déjà. Quel plus beau cadeau. Si je vous donne quelque chose que je vous apporte, vous avez un plus. Et vous êtes moins. Mais si le cadeau, c'est vous révéler ce que vous êtes déjà, il n'y a plus de plus et il n'y a plus de moins. Plein. Plénitude de la révélation de l'illumination de ce qui est déjà. Je suis. Nous sommes. Nous sommes un prophète dans l'écoute, la réception des commandements. Quelle joie! Et quelle responsabilité! Quelle joyeuse responsabilité! Et voilà le cinquième commandement. Fantastique commandement! Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que je te donne, le Seigneur ton Dieu. Honore ton père et ta mère. Après Dieu, je suis le Seigneur ton Dieu. Après avoir rejeté tous les autres dieux, toutes les idoles, après Dieu, après son nom, après son Shabbat, les parents. Après Dieu, les parents. Et plus précisément, il n'a pas dit « Honore tes parents, ton père et ta mère. » Après Dieu, ton père et ta mère. Rendez-vous compte de l'importance qu'est-ce qu'il a voulu dire. Qui sont ces pères et mères si importants qu'ils viennent juste après le Seigneur et son saint nom et son Shabbat? Qu'est-ce que je sais de mes parents? Quand j'étais méchant, quand j'étais gentil, qu'est-ce qui m'ont embêté? Je n'avais pas le droit de sortir. Et puis cette veste que j'aimais tant, que j'ai jamais eue, et la mobilette, et puis tout le reste. Qu'est-ce que je sais de mes parents? Qui sont mon père et ma mère que les commandements me demandent d'honorer tout de suite après ce qu'il y a de plus ultime, je suis? Qui sont-ils vraiment? Qu'est-ce que je sais d'eux? Ce sont les grands transmetteurs après Dieu. Ils retransmettent et la vie et la connaissance. Ce sont les premiers responsables de la transmission. Ils se sont engagés à l'origine, avant la réception des commandements, à la transmission. Ce sont les transmetteurs. Ils transmettent et la vie et la connaissance. Elle, la mère, transmet la vie. Elle transmet la forme. Elle est la matrice qui transmet la forme. Elle transmet la vie dans la forme. Elle transmet la vie dans le monde. Elle transmet la vie avec l'autre. Et le Père. Le Père transmet le nom. Il transmet la connaissance. la connaissance de l'un par le nom. Alors je commence à sentir qui sont mes parents. Ils transmettent, lui le père, la connaissance de l'un par le nom, elle la mère, la connaissance de l'autre, par la vie dans le monde, par la forme. Ils sont les tables de la loi. Ce cinquième commandement, qui est le commandement charnière, me révèle qui est mon père et qui est ma mère. Ils sont les tables vivantes de la loi. Dans la première table, c'est de l'un dont il est question et de son nom. C'est la table du Père. Dans la deuxième table que nous aborderons, il est question de l'autre, du prochain, du monde, de la vie avec l'autre. C'est la table de la mère. En honorant notre père et notre mère, nous sommes tenus d'honorer ce qu'ils incarnent, les tables de la loi chez nous, vivantes. Rendre honneur à la charge qu'ils exercent, pas aux parents, respectivement au père et à la mère, avec respect. Nous avons les tables de la loi vivantes à la maison dans le père et la mère. Comprenez l'importance de ce commandement qui est charnière, qui nous parle du Père, du respect des premiers commandements de la première table, et qui à la fin de cette première table nous révèle déjà ce que sont les deux tables vivantes chez nous. Le Père et la Mère, le nom et la forme, la connaissance de l'un, la connaissance de l'autre. Le « je suis dans la vie ». Et ils sont père et mère parce qu'en relation au travers de ce fruit qu'est l'enfant, la relation s'incarne. Sinon, ils seraient homme et femme seulement. Il n'a pas dit « honore l'homme et la femme ». Ton père et ta mère, qui sont père et mère parce qu'ils sont hommes et femmes en relation. Ils sont la relation vivante dont je suis le fruit, dont l'enfant est le fruit. L'enfant est la relation incarnée. À la maison, les tables sont vivantes. Honore les tables vivantes à la maison. La famille devient la première assemblée du souvenir, la première assemblée où on garde vivant le souvenir de cet engagement lié à la réception des tables, retransmettre par les enfants. Et comment mieux retransmettre que d'être les tables vivantes à la maison. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad, écoute Israël. Le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est un. Béni soit le nom de son règne glorieux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui Tu les garderas gravés dans ton cœur. Et tu en parleras à tes enfants. Tu en parleras autour de toi en voyageant, le matin, en te levant, le soir, en te couchant. Tu les écriras comme un signe sur ta main. Tu les porteras comme un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras au seuil de tes maisons, au seuil de tes villes. Mais il est dit en premier, tu en parleras à tes enfants. Et comment mieux parler à nos enfants des commandements que d'être l'incarnation des tables vivantes? Alors nous pouvons comprendre qui demande-t-il d'honorer? Pas des géniteurs abrutis. Il demande d'honorer les tables vivantes. Tu en parleras à tes enfants, tu ne vas pas leur rabâcher les commandements tous les matins. Mais quand ils se lèvent, qu'ils voient les tables vivantes, la table du Père, la table de la Mère, alors oui, les enfants savent qui ils vont honorer. Alors les parents ont véritablement gardé l'engagement d'origine. Ils font honneur à l'engagement lié à la réception. Quel engagement? Transmettre. Quelle transmission? Garder les commandements, c'est-à-dire les vivre. Être les tables vivantes de la loi. C'est la seule façon de retransmettre aux enfants. On a reçu vraiment que ce que l'on transmet vraiment. Si on a reçu, on a gardé, on n'a pas transmis, on n'a pas reçu. Recevoir les commandements, ce n'est pas aujourd'hui que vous les recevez. C'est à chaque instant où vous accomplissez la loi qu'ils incarnent. À chaque moment où vous accomplissez le précepte divin, ce moment-là vous recevez parce que ce moment-là vous transmettez. Ce moment-là, la loi est vivante. Ce moment-là, vous êtes la table vivante. Honorer son père et sa mère, honorer la charge, la fonction qu'ils incarnent dans la responsabilité de transmission, c'est véritablement honorer les tables, honorer les commandements que le père et la mère incarnent. Comprenez la responsabilité des parents. Comment pouvons-nous demander à des enfants d'honorer des parents qui ne sont pas la table incarnée? À quoi nous renvoie l'honneur qui est réclamé ici? Honore ton père et ta mère. Alors soyons des pères et soyons des mères. Soyons dignes d'être honorés. Soyons les tables incarnées. Alors, parce que nous serons les tables incarnées, nous serons l'obligation naturelle pour l'enfant de respecter, d'honorer. Quelque chose de très simple et très naturel. Ce n'est pas lié à l'autorité, de la peur, de la crainte mauvaise. C'est lié à l'obligation devant laquelle on ne peut autre qu'honorer. Parce que les tables sont vivantes, on ne peut pas ne pas honorer. Le devoir que l'on attend des enfants est immédiatement le devoir des parents. Se rendre honorable. Et comment se rendre honorable autrement qu'en assumant la charge que signifie profondément le mot honneur? Un honneur est une charge. Alors l'enfant, naturellement, honore, respecte. Il développe naturellement cette attitude qu'est le vrai respect et qui est la base de l'ordre du monde. Sans respect, un lointain Moïse aux yeux bridés, que je révère entre tous, que les Latins ont appelé Confucius, Kong Fu Tse, a dit la piété filiale est à la base de l'ordre des choses. Comment respecter autrement que dans cette attitude naturelle qu'amène la table vivante de l'écoute? Le respect est une qualité de l'attention. De quoi se plaignent les parents? Écoute-moi! Sois attentif! Qu'est-ce qui fatigue le plus les parents? La répétition. Mais sommes-nous dignes d'être écoutés? Avons-nous généré cette attitude d'écoute qui est le respect attentif? Le soin tout particulier que l'on porte à la chose importante écoutée. Et cela se voit dans la tenue. On n'écoute pas attentivement dans n'importe quelle tenue. Je me réjouis quand j'entre ici. Il y a de l'attention. Il y a de la tenue. Oui, nous tenons. Tiens-toi bien. Tu ne peux pas m'écouter dans cette attitude-là. Garde-vous. La garde. La garde de celui qui va recevoir le commandement. Les ordres. Les ordres de mission. Vous avez déjà vu, si vous n'êtes pas allé à l'armée, des films militaires. Hop! On ne peut pas écouter n'importe comment. Une tenue est nécessaire. La tenue. Tenir ensemble. Un. Oui, je tiens. Rassemblés, unis. Le peuple d'Israël, parti d'Égypte, était les Israélites. Au pied du Sinaï, il est le peuple. Un, unifié, écoute, attentif. Respectueux. Transmettre la tenue, la garde. Garder un commandement, c'est déjà être en garde à vous pour l'entendre. Si j'ai l'esprit, comment je peux entendre? Messieurs qui aimez la voix du guerrier, l'impeccabilité du guerrier, on garde! Vous avez déjà vu quelqu'un arriver au combat? Non, regardez-les sur les tatamis. Regardez-les, il n'y a rien qui passe. Ils sont en garde, absolument attentifs, respectueux. Honorer son père et sa mère, lorsque son père et sa mère incarnent les tables de l'un et de l'autre, du nom et de la forme, de l'être et de la vie. C'est grandir cette attitude qui garde, attentive, respectueuse, cette tenue, ensemble, unie. Alors, une telle qualité d'attention, une telle qualité d'écoute, ayant honoré, va pouvoir faire honneur. Va retransmettre ça, va le vivre dans son quotidien. Qu'est-ce que c'est que faire honneur, si ce n'est justement que l'ayant ressenti, l'incarner dans son quotidien, le vivre, l'enfant va être le parent. L'enfant va incarner ce qu'il ressent du parent, du père, de la mère, de cette première assemblée du rappel, après Dieu, ce qu'il y a de plus important, la première assemblée du rappel. Mon Dieu, qu'on a été chercher des gourous très loin, à tous ces prophètes. Ah, évidemment, j'ai cherché le mien un peu loin. Mais un homme extraordinaire dont on parle tellement peu, qui a été un maître exceptionnel pour un prophète exceptionnel, Joseph. Lisez-les, tous les textes qui vous parlent de Jésus aux Indes, dans les lamasseries tibétaines, qui n'existent pas encore. Et dans tel groupe ésotérique atlantique, atlantéen, que sais-je. Vous savez avec qui il était Jésus? Il était avec Joseph, avec son père. Il faisait des montants de lit, il faisait des charpentes de maison. Et son père lui disait la Torah. Son père était la table vivante. Quand on a la table vivante à la maison, on n'a pas besoin d'aller chercher un gourou bien loin. Sa mère, Marie, voilà qui furent ses maîtres, ses tables vivantes. Il a appris la Torah de la vie de ces tables vivantes qu'étaient son père et sa mère. Il la connaissait par cœur, cette Torah, parce qu'il l'avait vue vivre devant ses yeux depuis qu'il était enfant. Alors il a fait honneur. Il a fait honneur à ces tables vivantes, comme chaque enfant peut faire honneur à la table incarnée par le père, à la table incarnée par la mère, car il est le fruit de leur relation. Et le Seigneur dit, honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que je te donne. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Vous imaginez le truc? C'est pas d'aujourd'hui qu'on supporte pas la vieillesse. Voilà que les commandements nous révèlent une recette secrète de gériatrie améliorée. Les cellules fraîches, loin derrière, y aurait-il un secret de longue vie des tables? Il le dit. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre. Mon Dieu, quelle affaire! Non, non. Qu'est-ce que veut dire je suis quand il dit ça? Quand j'honore mon père et ma mère, quand j'honore les deux tables vivantes, alors je vais reconnaître quelque chose. Oui, je suis l'incarnation de la relation. Je suis le père et la mère. Pas seulement homme-femme, père-mère. Je suis la relation incarnée. En honorant père et mère, je réalise la partie père et la partie mère en moi. Déjà à la première alliance, au premier témoignage, le Seigneur parle de la création d'Adam et dit « Homme et femme, il les fit. » Il créa l'homme à sa ressemblance et homme et femme, il les fit. En honorant le Père et la Mère, je vais retrouver en moi ce que j'incarne du Père, ce que j'incarne de la Mère. Le « je suis » en relation déjà en moi. Et faire grandir ça va m'obliger à la transmission. Va m'obliger à le faire passer. Va m'obliger au renouvellement. Et voilà comment je vais vivre longtemps. Je vais me perpétuer dans ma descendance. Je vais me prolonger dans mes enfants qui, à leur tour, vont incarner cette reconnaissance père-mère. C'est pas moi qui vais rester vieux sur terre, non. Mes morts, je vais ressusciter dans le souvenir de mes enfants. Moi, je ne veux pas que mes enfants aient la mémoire de moi. La mémoire d'un homme né, puis disparu. Ce n'est pas cette mémoire-là. Mes enfants, je ne leur demanderai jamais d'honorer ma mémoire. Je leur demanderai d'être le souvenir vivant de ce que nous fûmes, leur mère et moi. D'être le souvenir vivant sera la seule façon d'honorer ce rapport de parenté. Ce sera notre façon de participer à la résurrection. Nous serons ressuscités dans nos enfants vivants. Alors nous aurons longue vie sur la terre que le Seigneur, je suis, nous donne. Moi, j'aspire pas à la barbe blanche, même si ça peut être très sympathique. J'attends pas des commandements, l'élixir de longue vie. Vous vous rendez compte si je vous embête encore 40 ans comme ça? Quoique. Non, j'aspire à ce que ce souvenir soit vivant dans les miens et dans tous. Mon premier devoir devant les tables de la loi, honorer père et mère, ces grands représentants, ces grands transmetteurs de vie et de connaissances, les tables vivantes. Quelle beauté! Quelle beauté! Alors l'histoire prend sens. Alors nous ne sommes plus des familles décousues qui semons ici et là, nous séparons ici et là. Nous avons un sens, la famille a un sens. Nous avons un destin familial. Alors la famille a une valeur suprême. Mon Dieu, j'ose à peine vous le dire, le je suis familial. Mais c'est vrai. Le je suis familial. Moi, je me souviens, petit enfant, j'ai été élevé à la campagne chez des paysans. Et il y avait un tableau dans une chambre où on dormait que quand il y avait du monde dans nos chambres. Et je me souviens toujours de ce tableau qui devait être, je me rappelle confusément, mais comme une broderie, vraisemblablement, encadrée avec du verre dessus. C'était la Sainte Famille. J'étais toujours ému par ce tableau. Après, vraisemblablement, si, quand j'ai viré ma cutie au moment de l'adolescence un peu réactive face à la religion, j'avais revu ce tableau, j'aurais pouffé de rire, la Sainte Famille. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens quand je pense Sainte Famille, Joseph, Marie, Jésus, le je suis familial. Le seul garant de l'ordre social, de l'ordre du monde. On pourra faire encore là toutes les lois qu'on veut. Comme disait Kong Fu Tse, s'il n'y a pas la piété filiale, il n'y a pas d'ordre social, il n'y a pas d'ordre du monde. Ils sont garants de l'ordre des choses parce qu'ils sont les garants des premières relations du je suis. Le monde est relation. Relation du je suis. La famille est la première expression de cette relation. Voyez la responsabilité. Ce qu'est la famille? Qu'est-ce qu'on a fait de la famille? Où est notre responsabilité? On a fait des petits enfants esclaves de Pharaon. On a laissé nos enfants en Égypte. Comment nos enfants peuvent-ils honorer des esclaves? Comment nos enfants peuvent-ils honorer les serfs de Pharaon? Un enfant ne peut pas honorer un esclave qui en plus retourne son esclavage sur lui, sur cet enfant. Un enfant ne peut honorer que des parents qui l'élèvent dans le respect naturel de la liberté. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes pas propriétaires des enfants. Nous avons un devoir envers eux. Ils sont Dieu en marche. Ils sont très précieux. Ce ne sont pas nos objets. Ils sont le destin du monde. Ils sont la vie et la résurrection. Ils sont notre résurrection. Ils sont le destin du monde. Ils sont demain dans nos mains. Ils sont demain dans deux mains, dans deux tables. Pourquoi croyez-vous que j'ai demandé à mes enfants d'être là? Je n'ai jamais demandé à mes enfants d'écouter un entretien. Je les ai élevés naturellement dans cet esprit-là. Mais aujourd'hui et tous ces jours, je voulais qu'ils écoutent parmi vous, qu'ils entendent ces commandements. Eux vivent avec moi tous les jours, avec leur mère, ils savent qui on est. Ils savent que pour nous, ils sont demain, ils sont le destin. Nous ne sommes pas là seulement pour les nourrir, pour les habiller, avec ou sans marque. Pour leur petit bonheur. Bien sûr qu'on a envie qu'ils soient heureux. Mais je ne veux pas faire des esclaves du bonheur. Je ne veux pas faire des esclaves de Pharaon. Je veux qu'ils ressentent, qu'ils reconnaissent, au fur et à mesure des années, dans leur cœur, qu'ils sont demain. Ils sont le destin. Il n'y en a pas d'autre, ce n'est pas le voisin. C'est dans leur qualité de relation au voisin qu'ils sont demain, qu'ils sont le destin. Vos enfants sont précieux. Ils sont votre longue vie. Et qu'il est encore temps, faites des enfants. Afin que se prolongent tes jours sur la terre que je te donne, le Seigneur ton Dieu. Quelle beauté ces commandements. Comment on n'y a pas pensé plus tôt? Alors ils feront honneur. Alors l'engagement au moment de la réception, au moment de la transmission, l'engagement qui a été pris sera tenu. Nous aurons transmis. Nous aurons fait passer. Alors nous pourrons dire oui, nous étions au Sinaï. Nous avons reçu parce que nous avons fait passer. On reconnaît le maître à ses disciples. On reconnaît les parents à leurs enfants. Qu'avons-nous fait passer? Que faisons-nous passer? De qui sommes-nous les descendants? De qui sommes-nous les ascendants? Voilà à quoi vous convie, vous oblige le cinquième commandement. À Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est un. Au cœur de l'illumination, je suis la vie poussée vers la vie appelée la vie. Ce n'est pas à Rouen que je suis allé vous chercher. Ce n'est pas à Paris. Ce n'est pas à Lyon, à Grenoble, à Montpellier, à Nice, à Toulouse, en Allemagne, en Israël. Où suis-je allé vous chercher? Sinon en terre d'Égypte. C'est en Égypte que je suis allé vous chercher. Dans la terre d'esclavage, dans la terre de servitude, dans la terre des victimes. La terre où règne Pharaon, la terre du moi. Car c'est je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait quitter l'Égypte, terre de servitude. Ce n'est pas Pharaon qui vous a expulsé d'Égypte. Pharaon tenait bien trop à vous et à toutes vos constructions. Ce n'est pas le moi qui vous pousse hors d'Égypte, hors de la terre des victimes. Le moi tient trop à vous, tient trop à ses victimes. C'est je suis le Seigneur ton Dieu. La reconnaissance du pressentiment se réelle en vous et en celui qui vous parle. Cela seul peut vous faire quitter la terre de la victime. En dénonçant ce par quoi Pharaon vous tient. D'abord, le bonheur, la croyance au bonheur, les stratégies du bonheur, l'intérêt personnel. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait quitter la terre d'Égypte, la terre des victimes. Pour aller où? Pour aller, et là encore j'insiste sur cette expression, non pas vers la terre promise, comme si elle était un dû. On sort d'Égypte, on va en terre promise, c'est fini. Mais vers la terre de la promesse. La terre où doit s'accomplir la promesse, où doit être honoré l'engagement. La terre de la promesse, c'est la terre des disciples. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait quitter la terre d'Égypte, la terre des victimes, pour aller vers la terre de la promesse, la terre des disciples. Devant la seconde table, je dois me poser avant tout une question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment être habitant de la terre de la promesse? Est-ce que je veux vraiment être disciple? Est-ce que je suis prêt à honorer l'engagement du disciple, l'engagement de la réception, et tout particulièrement de la deuxième table? Est-ce que je suis prêt à vivre selon les grands dires du je suis, les grandes paroles, les commandements, ce qu'en d'autres traditions on appelle les mahavakya, les grandes affirmations, les grandes vérités? Est-ce que je suis prêt à vivre selon les grands dires du grand dire, selon les grands dires de Dieu? Je dois vraiment profondément me confronter à cette question. La table que l'on aborde aujourd'hui, la deuxième table, c'est la table des grands interdits. Pénétrer dans l'intimité de la deuxième table, ce n'est plus... c'est quitter le monde de la discussion, c'est ne plus avoir d'échappatoire possible. Je ne pourrai plus quitter le champ de l'honneur où tuer n'est pas tuer. Où grandir, c'est grandir ensemble. Où honorer les grandir du je suis, c'est vivre impeccablement. Hors de péka, la faute. Sans discuter. Devant cette deuxième table, je suis devant des interdictions graves. Des interdits qui viennent de la table, on l'a vu, de la mer, la table de la vie. Des interdictions graves, car elles m'interdisent d'aller contre la vie, d'aller contre le grandir de Dieu, d'aller contre je suis. Le miracle de la deuxième table, à chaque fois renouvelé par les prophètes de l'enseignement, les prophètes de l'un, c'est le passage d'un Dieu révélé dans la première table. Qui dit qu'il est je suis, le Dieu un. À quelque chose d'immense, de beaucoup plus vaste encore, si c'était possible. Par la deuxième table, en nous commandant d'être attentifs à l'autre, nous passons du Dieu un, je suis, à la révélation du Dieu d'amour. Combien d'entre vous ont entendu les enseignements de l'un, du je suis, du réel? et ressentez souvent ce manque profond. Où est l'amour? Il est là, au cœur des tables, enseigné, transmis par Moïse, renouvelé par le témoignage de Jésus. Non seulement on nous enseigne dans la première table qui parle au cœur de l'illumination, Dieu, je suis. Mais il ne se contente pas de dire « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait quitter la terre d'Égypte et de servitude ». Il ne se contente pas de demander le respect de son nom, de son sabbat, de ne pas rendre le culte aux idoles de nos constructions personnelles et de respecter la double table vivante que sont nos parents, de les honorer. Il ne se contente pas de cette révélation du Dieu un « Je suis ». Il nous commande, il nous oblige au prochain, à l'autre, à aimer le prochain. Voilà l'importance de cette deuxième partie des tables. Cette deuxième table, la table de la mer, la table de la vie, c'est la table de l'amour. Ce n'est plus seulement la table de la conscience du « je suis un » et qui sert tant parmi nous de prétexte pour ne pas aimer, pour ne pas voir son prochain, pour ne pas l'accompagner, pour ne pas grandir ensemble. Tout est « je suis ». Après « je suis », le déluge, on connaît. Non. Il nous oblige par la deuxième table à aimer. Il nous oblige au prochain. Il nous oblige à l'autre. C'est pourquoi pour pouvoir m'approcher de cette deuxième table, je dois vraiment, profondément, me poser la question, être averti. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux vivre selon ses lois? Est-ce que je veux simplement cette illumination « je suis » qui a l'air de tout régler? Ou est-ce que je veux vivre selon ses lois? Est-ce que je veux faire grandir Dieu? Est-ce que je veux vivre selon les grandirs de la vie? Qui sont, ne l'oubliez pas, les révélations du « je suis », les révélations du Dieu un, les révélations du Dieu amour. Pour sortir d'Égypte, vous avez entendu l'enseignement qui vous a parlé de la victime, qui vous a dit comment gérer ce qui fait le quotidien de la victime. Parce qu'on peut dire « tout est je suis », mais de quoi est fait notre quotidien ? Sommes-nous le « je suis » ? Nous sommes obligés à l'intégrité, à la sincérité, à l'honnêteté. Sommes-nous le « je suis » dans notre quotidien ? Quelle est la réalité expérimentale de la situation, minute après minute ? Notre expérience, la réaction. Constamment, nous réagissons à ce que nous appelons l'autre. Alors l'enseignement nous a montré comment gérer la réaction, comment gérer cette partie de la relation de l'autre vers nous. Dans la terre des victimes, nous recevons l'enseignement. Nous le reconnaissons au travers de ce pressentiment. Nous entendons l'appel, nous écoutons l'enseignement. Nous reconnaissons que nous sommes victimes de Pharaon, des stratégies du bonheur miroitant. Nous devenons victimes conscientes. Nous apprenons à gérer la réaction liée au comportement de l'autre vers nous. Nous apprenons peu à peu de victimes automatiques, réactions inconscientes, immédiates, mécaniques. Nous apprenons à devenir des victimes conscientes, à reconnaître les mécanismes par lesquels nous réagissons. Et de victimes de l'autre, peu à peu, nous apprenons à être disciples de l'autre. Et là, la deuxième table va nous obliger plus loin. La deuxième table, qui est la table de la révélation du Dieu amour, va nous obliger au prochain. Va nous obliger maintenant à gérer quelque chose de plus vaste, de plus important. Dans ce chemin de relation qu'est la relation consciente, où j'ai appris de victime à être disciple de l'autre, à gérer la réaction de l'autre vers moi, maintenant je vais gérer mon comportement de moi vers l'autre. Voilà le cœur de l'obligation de la deuxième table. Et voilà pourquoi je dois me poser la question, est-ce que je veux vivre selon la promesse? Est-ce que je veux habiter la terre de la promesse, la terre des disciples, et non plus seulement être disciple de l'autre, mais aimer l'autre? Parce que je n'ai pas le choix. Vous ne pouvez pas prendre un service séparé. Je prends la première table, je laisse la deuxième. Les deux tables enseignent la relation consciente. La reconnaissance du « je suis », être disciple de l'autre et être attentif à l'autre, à son prochain. À chaque fois que l'on demande à Jésus « quel est le plus grand commandement ?» Jésus n'invente rien, il cite l'Écriture, toujours. Il dit le premier d'entre les commandements, c'est « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est un, et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. » Celui-ci est le plus grand d'entre tous les commandements, et le deuxième lui est semblable. « Aime ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Cela, c'est dans le Deutéronome. Cela, c'est dans le Lévitique. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. C'est le renouvellement de l'Ancienne Alliance, le renouvellement vivant par le témoignage du Christ. Il n'est pas venu apporter quelque chose de nouveau. Il est venu obliger à l'amour. L'enseignement de la relation consciente, c'est l'enseignement des deux tables. Et dans la deuxième table, tout va aller dans ce sens-là maintenant. Plus seulement comment gérer le rapport de l'autre vers moi, mais comment, je dirais, conduire, avec tout son sens le plus profond de conduite, comment conduire le rapport de soi vers l'autre. Et si je ne suis pas prêt à être l'habitant de la terre de la promesse jusqu'au bout de la table des interdictions, alors ce que je n'ai pas encore entendu, ce qui est dit dans la première table, c'est « Je suis qui doit conduire ». C'est « Je suis le Seigneur ton Dieu ». Alors là, je pourrais véritablement sentir ce passage de la première table du « Je suis un » à la deuxième, au Dieu d'amour. Voilà la façon dont je dois m'approcher de cette deuxième table, dont je peux entendre, recevoir le sixième commandement. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne tueras pas. Au cœur de l'illumination, je suis. J'ai senti. J'ai senti que tout est vivant, que tout palpite. J'ai senti le grand secret, le secret d'entre les secrets. J'ai senti la mort ne tue pas. La grande force transformante de vie. Le grandir vrai, la mort ne tue pas. Nous, nous tuons. Mais la mort, elle, ne tue pas. Aussi m'est-il demandé de ne pas aller dans le sens de la mort, puisque je ne suis pas la mort. Et je ne suis pas la mort parce que je ne suis pas la vie. Je ne suis pas vivant. Et là encore, je vois dans ce commandement ce que j'ai déjà vu dans les commandements précédents. Lorsqu'il me parle de son nom, Je suis obligé à la discipline de ma parole. Lorsqu'il me parle du sabbat, du repos, je suis obligé à la discipline du travail conscient. Lorsqu'il me parle du respect, d'honorer les parents, je suis obligé à considérer l'éducation. Et là qu'il me parle de la mort, je suis obligé à considérer la vie. Qu'est-ce que je sais de la vie? Qu'est-ce que je sais d'être vivant? Qu'est-ce que c'est être en vie? Qu'est-ce que c'est être vivant? Qu'est-ce que je sais de cela? Est-ce qu'être cliniquement vivant, c'est être vivant? La loi du vivant, celle que vient incarner, rappeler tout être éveillé au cœur du je suis et de l'amour du prochain, dit être vivant, c'est être dans le grandir de Dieu, c'est faire grandir, c'est faire tourner, c'est prendre, transformer, donner. C'est rendre transformé ce qui a été pris. C'est rendre plus que ce qui a été pris. C'est être transformateur du vivant. C'est être le lieu où le vivant grandit. Le lieu où Dieu grandit. Être vivant, c'est être vivant de se grandir là. Mais alors là, je peux commencer à sentir qu'est-ce que c'est. Tuer. Tuer, c'est ne pas transformer. Le premier meurtre, c'est de ne pas vivre. Vous savez que la loi de la vie, il n'y en a pas d'autre, c'est manger, être mangé. On tue constamment. Et quand il me dit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme certains, avec des petits voiles sur la bouche et des petites balayettes devant pour les moustiques. Au cœur de l'illumination où je suis, j'ai vu, j'ai senti, tout est vivant, tout palpite. Et tout vit de la loi du grand sacrifice, manger, être mangé, prendre et donner. Tout vit par cette seule loi-là, la grande force transformante qui dévore. Le grand sacrifice. Et il me dit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre, alors que toute la vie est faite de ce meurtre-là, permanent. Mais au cœur de l'illumination où je suis, je sens, oui, c'est la loi du grand sacrifice, mais je sens, de tout mon être, je sais, la mort ne tue pas. Nous tuons, la mort ne tue pas. Et pour pouvoir ne pas tuer, il faut que je meure. Ça serait sympathique de mourir tout seul dans son coin. Il faut que je meure avec l'autre. Parce que grandir, c'est grandir ensemble. Je ne peux pas m'illuminer tout seul. Perso, l'illumination. Je ne peux pas. C'est pas possible. Grandir, c'est grandir ensemble dans le « je suis », dans la loi du grand sacrifice, dans le prendre, transformer, donner, dans le grandir de Dieu, obligatoirement avec l'autre. Il me dit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre, et il sait que toute la vie est meurtre, que toute la vie est sacrifice, mais que la mort ne tue pas. Et que si je veux considérer ce grand dire vrai, ce commandement, il faut que j'aille au cœur de ce qu'il veut me dire pour ne pas tuer. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour, comme la mort, ne pas tuer? Prendre, transformer, donner. Rendre plus que ce qui a été pris. Ça, c'est le devoir rappelé par Jésus, le devoir eucharistique. Pour ne pas tuer, il faut que je réalise à quel point je tue tout le temps parce que je prends et je transforme rien. Je garde, je gâche, je gaspille ce qui ne m'appartient pas en plus. L'inaliénable, l'inappropriable. Cette terre nous appartient-elle? Elle a été donnée à notre garde. Ce corps, cette vie, êtes-vous propriétaire de cela? Vous en avez la garde, vous en avez la responsabilité. Et comme tout engagement de garde et de responsabilité, lié à la transmission, lié au grandir, à rendre plus que ce qui a été confié. Vous vous rappelez de la parabole? Le maître qui laisse ses serviteurs et il donne à chacun une certaine somme. Celui qui a dépensé, celui qui rend la même chose, et celui qui a fait fructifier. Celui-là est le bon serviteur. Il confie, il vient reprendre. Ce qui ne m'appartient pas, ce qui nous appartient pas, l'inaliénable, l'inappropriable. À quoi la science moderne, la législation contemporaine est confrontée aujourd'hui de façon terrible? Parce qu'on touche l'inaliénable, on touche les mécanismes de la vie, on touche les mécanismes de la nature, les mécanismes du corps. Mais à qui cela appartient-il? L'inaliénable est sacré. Tu ne tueras pas. Et si je me contente de prendre, de m'empiffrer de ce que je prends, de me gaver, je tue. Car je ne fais pas grandir, car je ne fais pas fructifier. Car je gaspille. Je ne me fais pas grandir. Je ne le fais pas grandir. Le je suis ne grandit pas. Et grandir, c'est grandir ensemble, m'oblige à l'autre. Quand nous avons exploré le mode de fonctionnement de la réaction, nous avons bien vu ce que ça faisait la réaction. Nous savons bien ce que ça fait quand nous pratiquons la relation consciente qui est le risque de l'autre, prendre le risque de l'autre. Comment je vous ai enseigné d'offrir vos boutons sur lesquels on appuie et toc, il y a la réaction qui monte. Et comment gérer ça? Comment devenir disciple au travers de la relation consciente? De la réaction consciente. Alors on sait très bien ce que ça peut faire que de le faire à l'autre. Vous savez, vous, ce que c'est que de rendre l'autre victime de soi? Parce que vous avez, vous n'avez aucune excuse d'une certaine façon, parce que en tant que victime consciente, vous l'avez éprouvé dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on vous demande d'abord de l'éprouver dans ce sens-là, pour savoir ce que ça fait d'être en réaction. Ce que ça fait quand quelqu'un appuie sur un bouton et qui vous fait monter ces meurtres mineurs, comme le dit le Christ, que sont la colère, la haine, et la vengeance. Vous le savez, vous l'avez tous éprouvé. On l'a tous éprouvé. Je l'ai éprouvé. C'est pourquoi le premier commandement de la charité, qui va résumer cette table, cette deuxième table, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. Et vous, vous le savez, puisque vous l'avez vécu consciemment. Vous n'êtes plus une victime inconsciente à qui on demande « tu ne tueras pas ». Vous êtes entré sur la terre de la promesse, vous êtes les disciples de la relation consciente, vous avez déjà été victime consciente, vous avez déjà éprouvé la réaction de façon consciente. Donc vous savez, parce qu'on vous l'a fait, ce que vous ne devez pas faire. Et ça, c'est l'amour, parce que rien vous y oblige. Rien. Et puis c'est tellement tentant quand on est tout imprégné de l'enseignement de l'obligation de conscience et de la relation de conscience, d'être généreux dans cette obligation du travail qu'on va filer aux autres. Venez, venez à moi, je vais appuyer sur vos boutons. Tout le monde est d'accord d'appuyer sur les boutons du copain. Et quand on dit, oh là là, mais pourquoi tu fais ça? Penses-tu, je suis dans l'enseignement, je lui donne des occasions de travail. La voilà, notre générosité. Nous sommes très généreux dans notre obligation de donner du travail aux autres. Et presque on attendrait les prosternations. Donc nous savons vraiment ce que c'est que la réaction consciente. Nous savons ce que nous ne devons pas faire aux autres. Mais ça, ça c'est rien encore, ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus insidieux que j'ai éprouvé dans ma chair et que vous avez éprouvé dans votre chair. Tout être aspire à grandir parce que Dieu aspire à grandir en lui, parce que je suis aspire à grandir. L'empêcher de grandir, ce que sur un plan biologique on appellera l'inhibition de l'action, la deuxième table nous dira c'est l'inhibition du grandir Dieu. Empêcher le grandir Dieu, c'est distiller un poison dans le corps de son prochain. Vous êtes-vous jamais senti dans l'impossibilité d'agir, complètement coincé, dans ces relations où on ne peut pas agir, on ne peut plus faire face, on ne peut plus lutter, on ne peut plus fuir, on ne peut que se faire mal. On ne peut que retourner le grandir sur soi. On s'empoisonne. Vous avez connu ce poison dans votre corps, ce poison de douleur, de souffrance. Moi, je l'ai connu. Et je crois que tout le monde ici a connu et connaît ce poison-là. C'est rien la réaction à côté de ça. J'entends tellement parler de guérison spirituelle autour de moi, mais si la première guérison d'entre toutes que nous devions appliquer n'était pas celle-là, n'empoisonne pas ton prochain. Ne distille pas le poison en lui de l'interdit d'être. C'est devenu tellement anodin. Qu'est-ce qui m'empoisonne, celui-là? Vous avez tous dit ça une fois. Qu'est-ce qui m'empoisonne? Avez-vous bien vu? Avez-vous entendu ce que vous avez dit? C'est du poison en moi. Et effectivement, la guérison, c'est que ce poison ne soit plus là. C'est ne pas empoisonner l'autre. Je vous assure, qu'inhiber le grandir de Dieu dans l'autre, c'est le poison. Et les lois du grandir sont les lois issues de l'amour. C'est les lois de la vraie guérison, de l'intelligence de vivre ensemble, de ne pas se faire mal. Et devant ça, il n'y a plus aucune théorie spirituelle, métaphysique. Il y a notre vérité quotidienne. Vous connaissez le monde de la réaction. Maintenant, je vous demande d'explorer le monde du faire mal. Voilà l'engagement de la table, l'engagement de la terre de la promesse, l'engagement de la terre des disciples. Ok, vous ne voulez plus être victime, on a quitté la terre d'Égypte, le pressentiment du « je suis » a fait sortir d'Égypte. Mais maintenant, voulez-vous être des disciples? Voulez-vous habiter la terre de la promesse, pas la terre promise, la terre du travail, la terre de l'obligation, la terre du témoignage, la terre où on ne fait pas mal, où on ne distille pas le poison? Oui, au cœur de l'illumination, je sais de tout mon être, la mort ne tue pas, mais nous, nous tuons. Et comment nous tuons? Comme ça. Nous tuons en empêchant de grandir. Et je vous dis vraiment, il n'y a jamais eu un seul homicide sur Terre, jamais. Il n'y a que des déicides, car jamais nous tuons l'homme, mais nous tuons Dieu. Nous empêchons Dieu d'être. Alors bien sûr, le meurtre le plus évident, malgré la folle banalisation de ce meurtre avec tout ce que nous pouvons lire, nous pouvons voir, et qui est la destruction du corps lui-même, de cette structure de reconnaissance par laquelle l'univers tout entier aspire à se reconnaître, fait à la semblance de l'univers, fait à la semblance de je suis, pour que je suis enfin se reconnaisse. Ce corps précieux, précieux entre tous, parce qu'il est le lieu unique de cette reconnaissance possible. Alors le premier meurtre, effectivement, c'est de détruire ce corps-là. Mais il en est encore de beaucoup plus subtils, beaucoup plus insidieux, qui correspondent justement à l'empêchement du grandir Dieu. Qu'est-ce qu'on a vu ces jours-ci? Quand on a considéré le commandement de son saint nom. Je vous dis, chacun est appelé par son nom. Chacun est le nom que Dieu prononce pour grandir, pour que celui-là, de façon unique, singulière, soit témoin du « je suis ». Et là, témoin du « je suis un » et du « je suis d'amour ». Et en faisant mal, qu'est-ce que je fais? J'empêche ce nom de vivre, d'être prononcé.